cours de chimie proposé par physagrec.fr. Chapitre 5. Une transformation chimique n'est pas toujours totale. La réaction a lieu dans les deux sens. Premier paragraphe, les réactions acido-basiques. Petit 1, définissons ce qu'est un acide. Selon Brønsted, un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Par exemple, l'acide éthanoïque est un acide car il cède un proton selon l'équation CH3CO2H égale H+ plus CH3CO2-. On obtient alors forcément une base de l'autre côté, c'est-à-dire CH3CO2-. C'est la base conjuguée de CH3COH, l'acide éthanoïque. Et donc l'équation que l'on vient de décrire, CH3CO2H égale H+, plus CH3CO2-, c'est une demi-équation acido-basique. Définissons maintenant ce qu'est une base. Donc toujours selon Brønsted, une base est une espèce chimique capable de capter un proton H+, par exemple l'ammoniac NH3. En effet, selon la demi-équation acido-basique NH3 plus H+, égale NH4+, NH3 est une base puisqu'il capte le proton H+. Il donne NH4+, qui est donc l'acide conjugué de NH3. Couple acide-base et réaction acido-basique. D'abord, couple acide-base. Un acide et une base conjuguées forment un couple appelé couple acide-base et noté acide slash base. Nous venons donc de voir deux couples précédemment, CH3CO2H, CH3CO2- et NH4+, NH3. Le passage de l'acide à la base conjuguée, ou vice-versa, est formalisé par une demi-équation acido-basique. Base plus H+, donne acide. Réaction acido-basique. Une réaction acido-basique met en jeu un transfert de protons entre l'acide d'un couple acido-basique et la base d'un autre couple. Ici, on peut imaginer la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac. On obtiendra donc CH3CO2H plus NH3 donne CH3CO2- plus NH4+. Le proton qui était sur CH3CO2H s'est transféré sur NH3, donc ça a donné CH3CO2- et NH4+. Le pH et sa mesure. Définition du pH. Pour des solutions aqueuses diluées, le pH est défini par la formule pH égale moins log de concentration de H3O+. H3O+, en concentration, donc, est la valeur numérique de la concentration en ion oxonium, puisque le pH n'a pas d'unité. Le logarithme est un logarithme décimal et non un logarithme népérien. Inversement, on peut remonter à partir du pH d'une solution à la concentration en ion oxonium H3O+, en effectuant l'opération concentration de H3O+ égale 10 moins pH. Et on trouvera donc cette concentration en mol par litre. Propriété du pH. Nous savons depuis longtemps que le pH permet de savoir le caractère d'une solution. Si le pH est petit, inférieur à 7, on a une solution qui est acide. Sinon, elle sera basique au-dessus de 7. Le pH neutre étant le pH égal à 7. Pour mesurer un pH, il y a plusieurs possibilités. On peut simplement avoir une indication de celui-ci en utilisant un papier pH qui va être plus ou moins rouge selon l'acidité de la solution et donc plus ou moins bleu selon la basicité. Et pour être plus précis, on va utiliser un pH-mètre. Donc c'est en fait un millivoltmètre qui est relié à deux électrodes. Alors généralement, on en a une seule mais qui est combinée. Une électrode de verre et une électrode de référence. Et donc le millivoltmètre mesure la différence de potentiel entre ces deux électrodes. On obtient alors le pH au dixième de degré près. Paragraphe 3. La réaction chimique s'effectue dans les deux sens. Elle n'est pas toujours totale. Premièrement, mise en solution du chlorure d'hydrogène dans l'eau. Lorsque l'on met en solution le chlorure d'hydrogène, on obtient une solution d'acide chlorhydrique. On rappelle que dans ce cas, on appelle la substance dissoute le soluté et le liquide dans lequel on dissout le solvant. Généralement, le soluté est en très petite quantité par rapport au solvant. Prenons l'exemple d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1·10·2 mol par litre. Si on mesure son pH, on obtient un pH de 2. On peut établir les tableaux d'avancement de la réaction de mise en solution du chlorure d'hydrogène. On obtient alors dans la dernière ligne, à l'état final, que la quantité de matière de HCl gazeux, c'est CV moins XF, et la quantité de matière de H3O+, donc créée, c'est XF. Donc si à la fin de la réaction, on a un pH 2, on a donc la concentration de H3O+, qui est égale à 1·10·2 mol par litre. Il est facile donc de revenir à la valeur de XF. Or, 1·10·2 mol par litre, c'est la concentration apportée en chlorure d'hydrogène dans la solution. Donc, la concentration qui a été apportée a totalement été libérée sous forme d'H3O+. Donc, l'avancement maximal est atteint. La transformation mettant en jeu la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau est totale. Tout le chlorure d'hydrogène a été consommé pour créer autant d'ions H3O+. Pour savoir si la réaction est totale, on peut définir le taux d'avancement final d'une réaction. On compare alors le taux d'avancement final avec le taux d'avancement maximal si la réaction était totale. On obtient donc le taux qui est égal à XF sur Xmax, avec Xmax l'avancement final correspondant à l'état d'équilibre obtenu, et Xmax l'avancement maximal que l'on obtiendrait si la réaction était totale. Si on étudie la réaction ci-dessus, donc de la mise en solution du chlorure d'hydrogène, on peut dire aussi que taux est égal à XF sur Xmax, est égal aussi à XF sur V sur Xmax sur V. Ainsi, on fait apparaître au numérateur la concentration H3+, et au dénominateur la concentration C, donc concentration apportée en chlorure d'hydrogène. Donc taux est égal à concentration de H3+, divisé par C. Cela nous permet d'avoir, avec les concentrations, la valeur du taux d'avancement. Dans cette réaction donc, de mise en solution du chlorure d'hydrogène, on obtient donc un taux qui est égal à 100%, puisque la réaction est totale. Cela veut dire aussi que 100% des molécules de chlorure d'hydrogène apportées ont été dissociées. On peut à présent faire le même travail avec une solution d'acide éthanoïque. Donc si on dissocie de l'acide éthanoïque pur dans de l'eau, et qu'on obtient une solution de concentration 1,10-2, on peut mesurer son pH et obtenir un pH de 3,4 cette fois-ci. On établit le tableau d'avancement, on va obtenir exactement les mêmes lignes qu'avec le chlorure d'hydrogène. Par contre, donc, une fois que la réaction est terminée, on obtient un pH de 3,4. Donc la concentration en ion H3+ est égale à 10-3,4, est égale à 15,0 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors que la concentration apportée en acide éthanoïque pur était de 1,10-2. Ainsi, on voit bien que la réaction n'est pas totale. Donc toutes les molécules d'acide éthanoïque n'ont pas réagi, et la transformation est donc dite limitée. On peut donc calculer le taux d'avancement lors de cette réaction, donc toujours taux égal XF sur Xmax ou égal concentration en ion H3+, sur C, concentration apportée en acide éthanoïque pur. On obtient donc ici taux égal 4,0 10-4 divisé par 1 × 10-2. On obtient 0,04, soit 4%, ça veut dire que 4% des molécules d'acide éthanoïque ont été dissociées. Ce taux d'avancement va nous permettre de comparer par exemple deux acides entre eux. Plus le taux d'avancement va être élevé, plus l'acide sera dissocié. Moins le taux d'avancement sera grand, moins l'acide sera dissocié. Notion d'état d'équilibre d'un système. Alors déjà, on va revoir le symbolisme d'écriture de la réaction. Puisque maintenant, dès qu'on va avoir une réaction totale, nous allons utiliser une simple flèche dans les réactions. Par contre, si la réaction est limitée, on utilisera un signe égal entre les réactifs et les produits. Cela veut dire que la transformation se fait dans les deux sens. État d'équilibre d'un système. Si on se place à l'état final d'une réaction limitée, on est à ce qu'on appelle un état d'équilibre. Grâce au pH, on peut calculer les concentrations des différentes espèces dans la solution. Alors par exemple, si on prend la mise en solution de l'acide éthanoïque, on obtient les concentrations. Donc la concentration de CH3CO- est égale à la concentration de H3O+, qui est égale à 4,10-4 mol par litre. Et la concentration de CH3COH, on peut l'obtenir, on obtient 9,6-10-3. Comme le pH est constant, ces concentrations que l'on vient de décrire sont constantes. Ainsi, le système est en équilibre. Interprétation microscopique de l'équilibre. On va considérer un système chimique siège d'une transformation limitée, modélisée par la réaction A plus B égale C plus D. Nous avons dit que dans l'état d'équilibre, le système ne présentait plus de modification des grandeurs observables, température, pH, couleur, conductance, etc. Mais l'agitation thermique demeure, donc il est logique de penser que les chocs efficaces vont se produire entre A et B, mais aussi entre C et D. Donc à l'équilibre coexistent les deux réactions, A plus B donne C plus D, et C plus D donne A plus B. Il y aura donc autant de A consommé que de A formé, de même pour B, C et D. On a donc un équilibre qui est dynamique.